Bonsoir. On est heureux de pouvoir se retrouver. Je pense que rien que les chants pourraient presque suffire pour ce soir. Mais on va quand même ouvrir la parole, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que tout ce que nous avons chanté prépare notre cœur, à ce message que Dieu veut nous laisser. Et pour cela, nous allons lire un texte bien connu dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Notre frère, dans sa prière, faisait mention du fils prodigue. Et c'est le texte que nous allons lire. Luc chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. C'est un texte que l'on aime. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous l'entendez ce soir, peut-être la troisième, la dixième fois, mais on ne peut pas se lasser d'entendre, d'écouter au travers de ce texte, d'écouter, de découvrir l'amour de Dieu. Le titre de ce message, c'est « Avoir un GPS spirituel ». Et je vais m'expliquer. Dans ce texte, nous voyons un jeune homme, et on y reviendra sur le contexte, sur ses choix de vie, sur ce qu'il a fait. Mais on voit aussi un père qui attendait et qui va dire cette phrase extraordinaire et cette phrase qui peut-être nous choquer ce soir parce qu'il va dire, et c'est le verset 24, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Alors déjà, on peut se poser la question, comment se fait-il que le père dit qu'il est mort alors que nous voyons au fil de l'histoire, au fil de ce récit, que ce fils est bien vivant et c'est ce que nous allons voir. Le père va dire, il était perdu et il est retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Une définition du mot perdre, perdu, parmi toutes les définitions que nous pouvons trouver, et bien sûr il y en a qui sont évidentes, nous perdons un objet, nous ne l'avons plus sous nos yeux, nous ne nous souvenons plus où nous l'avons mis, ce qui s'est passé, c'est évident. Mais une autre définition de perdu, c'est le dictionnaire qui le donne, ce n'est pas moi, c'est se confondre avec le milieu environnant au point d'échapper au regard. Je vais peut-être le redire d'une manière biblique, peut-être, c'est se conformer à tel point avec le monde qu'on n'arrive plus à différencier le monde de nous, de soi, de notre personne, de notre personnalité. La Bible appelle le monde ce qui est extérieur à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes, c'est là où nous sommes, à un moment donné. C'est là où, peut-être pour quelques-uns ce soir, c'est là où nous avons été. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne faisons plus partie du monde. Ou nous pouvons être là, dans ce constat ce soir, en disant, mais effectivement, il n'y a pas de différence. Je suis dans une conformité parfaite avec ce qui m'entoure. La mentalité, le langage, la manière de s'exprimer, la manière de se vêtir, mais plus en profondeur, d'une manière spirituelle, je suis en conformité parce que je pense la même chose que le monde. Spirituellement, le monde pense, les personnes pensent qu'on peut se passer de Dieu, qu'on peut vivre finalement en choisissant son propre chemin. Et c'est vrai, c'est vrai. Le monde pense que finalement, nous sommes égaux avec Dieu. Et on y reviendra dans quelques instants. Ce que j'aimerais dire dans ce premier point, c'est que nos certitudes ne sont pas les certitudes de Dieu. Ce que nous pensons, en aucun cas, ce ne peut être mis au même niveau que ce que Dieu pense. Pense de nous, pense de la vie, ce que Dieu pense du péché. Dieu pense une certaine chose sur le péché, notre frère l'a bien exprimé au travers de leur repentance. Les chants que nous avons chantés ont exprimé d'une manière parfaite le péché, ce que Dieu désire. Arrête au pécheur, considère, regarde la voie. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble sur ce simple fait. Est-ce que nous, bien que vivants, bien qu'en pleine forme physique, nous pouvons arriver à une conclusion que peut-être que spirituellement, nous sommes morts. Est-ce que sachant bien où nous en sommes dans notre vie, ou pas d'ailleurs, nous pouvons dire, mais finalement, est-ce que je ne suis pas perdu? Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On ne peut pas arriver à caser Dieu dans une boîte, on ne peut pas arriver à rivaliser avec Dieu. C'est impossible, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir se mettre au même niveau que Dieu. Ce n'est pas possible. Ce jeune homme, l'Écriture nous dit, et c'est ce que nous avons lu, à un moment donné dans sa vie, va voir son père pour lui dire « Mais voilà, maintenant, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris, cela me suffit. Je veux faire ma propre expérience, je veux choisir mon propre chemin. » Et ça, c'est un choix que tout être humain peut faire, a la possibilité de faire. Tout homme, toute femme sur terre peut dire « je veux faire ceci ou cela, je veux choisir ce courant, cette religion, cette manière de penser, cette manière de vivre. » Sinon, on le serait, sinon la Bible nous dirait que Dieu a voulu que l'homme soit confiné comme un robot, par exemple. Mais Dieu nous a laissé le choix, le libre arbitre, de le suivre ou de ne pas le suivre. Dieu nous a laissé le choix de pouvoir évaluer où nous en sommes et de prendre cette direction, de dire « mais je vais quitter mon père, je vais quitter tout ce que je sais, tout ce que je crois savoir pour faire ma propre vie, ma propre expérience. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et on sait, peut-être vous ne le savez pas, je ne vais pas m'y attarder longtemps, mais que pour l'époque, c'était, on pourrait le dire, quelque chose d'injurieux pour le père. C'était un coup dur, une crise familiale, quelque chose qui était là, c'était difficile pour un père d'entendre cela. Malgré tout, il va céder. Il y a toujours ce désir dans le cœur de l'homme de croire que lui, il peut faire autre chose, de croire que lui, il peut faire mieux que son voisin, mieux que ceci, mieux que cela. Il y a toujours dans le cœur de l'homme cette pensée de dire que lui, finalement, il a besoin de personne pour s'en sortir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Vous savez, aujourd'hui, on tient le même discours. On a tenu, peut-être pour certains, le même discours. Peut-être vous qui êtes venus ce soir, vous tenez le même discours. Donne-moi ce qui me revient. parce que c'est comme si on disait à Dieu, mais la vie, c'est quelque chose qui me revient. Mon existence, elle est à moi. Donne-moi ma vie, donne-moi la part de mon bien, donne-moi l'arbre de la connaissance. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donne-moi la possibilité de choisir entre le bien ou le mal. Donne-moi la possibilité de croire, de penser que je peux être mon propre Dieu. Et ce jeune homme, au travers de ce qu'il va dire à son père, c'est cela le message. Ce jeune homme a pris une voie de travers. Ce jeune homme, moi je pense que dans sa tête, c'était tout était réglé, tout était carré. Pour lui, il savait, il se disait peut-être, je vais prendre cet argent, je vais le mettre dans les bourses, je vais placer mon argent dans les banques pour que ça me rapporte, je vais avoir un projet immobilier, je vais avoir ceci ou cela, je vais monter une affaire, on ne sait pas. Je vais montrer à mon père qu'il n'y a pas besoin de travailler la terre, il n'y a pas besoin de se fatiguer pour gagner sa vie. On ne sait pas ce qu'il y avait dans son cœur. Simplement, la finalité, on la connaît. Et nous, on ne saura jamais et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre cœur, dans le cœur des hommes, des femmes, d'une manière générale. Mais Dieu le voit, Dieu le sait. Et quelquefois, Dieu nous laisse, vous savez. Dieu nous laisse prendre des chemins qui vont être compliqués parce que son désir pour le Seigneur, c'est que nous puissions toujours comprendre qu'il nous tend la main, comme nous l'avons chanté, que ses bras sont toujours ouverts. Mais combien de fois est-ce que nous refusons cela? Combien de fois, alors que Dieu nous tend encore cette main, quand nous sommes dans la misère, nous disons à Dieu, mais donne-moi la part qui me revient. Proverbe 21, verset 8, et je vais vous le lire dans la version David Martin, nous dit « Quand un homme marche de travers, il s'égare, mais l'œuvre de celui qui est pur est droite. » Quand un homme marche de travers, forcément, il ne faut pas être un grand théologien pour comprendre cela, c'est que quand on ne suit pas une route, un chemin droit, et qu'on prend un chemin de travers, plus on avance, plus on s'écarte du chemin. Plus on avance, plus on va mettre du temps et on va peiner à revenir. Une autre version dit « Le coupable suit des voies détournées ». Coupable, vous savez, je l'ai noté parce que ce mot signifie, et il est particulier, parce qu'il signifie changer soi-même, tourner ici et là, aller de tous côtés, changer soi-même. Le monde, ça nous change, vous savez. L'environnement dans lequel nous vivons, ça nous impacte. Les émissions de télé que nous regardons, les programmes, ce que nous regardons sur Internet, ce que nous regardons au cinéma, ça nous impacte. La foi vient de ce qu'on entend, on connaît ce texte, ce verset, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne peut pas venir de la télé, d'Internet, du monde, c'est pas possible. Et de la même manière qu'en lisant la parole, j'ai cette foi qui grandit, de la même manière que je suis là à une réunion, j'entends parler de Jésus-Christ, ma foi grandit, il y a quelque chose au niveau spirituel qui se passe, qui nous dépasse, mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui agit en nous, peut faire grandir notre foi. Nous ne pourrons jamais apprendre de Dieu, de Jésus-Christ dans le monde. Ce jeune homme pensait peut-être, disait à son père, peut-être pour le rassurer, « Mais tu sais, je vais toujours retenir ce que tu m'as dit. Tu sais, ça va aller. Oui, je vais partir, mais là-bas, j'irai à l'église. Là-bas, je vais lire ma Bible. Là-bas, ceci, là-bas, cela, on ne peut pas savoir. » Le monde veut nous changer, et ça ne peut pas nous changer en bien. Le péché nous change. Le péché nous transforme, mais pas en bien. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la vie. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la mort, ça ne peut pas nous transformer en quelque chose d'extraordinaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce jeune homme, vous savez, et on est là, on parle de lui, mais combien de personnes ont vécu, ont été ce jeune homme? Moi-même, je l'ai été. Avoir cette assurance que finalement, on peut très bien s'en sortir. On peut très bien y arriver, on peut très bien avoir nos propres convictions, et ça va très bien. Mais le péché, la Bible nous dit qu'on en souffre longtemps. Le péché nous marque au fer rouge, vient transformer ce que nous avons été, vient modifier notre manière d'être, de penser, vient pour, comme pour nous faire ressembler au monde. Et vous savez, je le répète volontairement parce que la Bible est catégorique. Elle nous dit que si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Que celui qui règne dans le monde, c'est le diable, c'est Satan. Et sa volonté, ce n'est pas de nous gagner, c'est de nous perdre. C'est de venir peut-être détruire notre vie, d'égorger, de voler ce que Dieu nous met, de voler les bénédictions. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a toujours le Père qui attend. Il y a toujours le Père qui regarde au loin pour voir si son enfant ne va pas revenir, ou voir si un enfant ne va pas venir simplement. Il y a toujours le Père qui attend, qui te dit « mais je veux te tendre la main ». Je t'attends, je veux entendre le jour où tu vas te repentir. Je serai là le jour où tu vas faire cette prière. Je serai là où, lorsque tu vas rentrer en toi-même, je serai là pour t'accueillir. C'est cela le message de l'Évangile. C'est qu'on a pu prendre un chemin de travers, on a pu marcher peut-être 10 km, 20 km, une heure et demie, c'est pas beaucoup pour une randonnée, 2 heures et demie, toute une vie, on a pu et on peut marcher toute une vie dans une direction. Mais Dieu sait où nous trouver. Quand bien même on a marché pendant des années et des années et qu'on est à un point tellement éloigné de lui, Dieu sait et il nous attend, il nous regarde. Et cette simple prière que va faire ce jeune homme, ça va bouleverser sa vie. Je l'ai dit, c'est mon deuxième point parce que avant, pour qu'il y ait repentance, comme nous l'a rappelé Michaël, pour que nous puissions comprendre que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de reconstruire, c'est de rebâtir, rebâtir notre foi. C'est de comprendre que nous pouvons être épanouis, nous pouvons surtout être délivrés du péché. Parce que la vraie joie, c'est ça, c'est d'être libéré, c'est de connaître la liberté. C'est de pouvoir se lever, de pouvoir se coucher en étant dans la paix. Ce jeune homme va dire, mais lorsqu'il va commencer à se trouver dans le besoin, la Bible nous dit plutôt qu'il va se mettre au service des habitants du pays. Vous savez, l'horreur du péché, c'est de nous amener à faire des choses qu'on avait peut-être dit en soi, mais je ne ferai jamais ça. L'horreur du péché, c'est de nous pousser à nous mettre au service des habitants du pays. L'horreur du péché, c'est ça, c'est de nous mettre au service du diable. C'est cela le péché. C'est ce qui nous mène à la mort. Et excusez-moi d'y revenir, mais c'est pour ça que Jésus-Christ est venu volontairement dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé. C'est pour ça qu'il veut que nous puissions être avec lui. Parce que si nous sommes avec lui, nous avons quand même cette assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie, que nous pouvons être là, prêts, le jour où il va revenir. La Bible nous dit que ce jeune homme va rentrer en lui-même. Une autre version va dire, « Or, étant revenu sur sa vie, lui qui a été perdu, lui qui à un moment donné, s'est réveillé spirituellement, a ouvert les yeux sur ce qu'était sa vie, sur ce qu'était son quotidien, sur ce qu'étaient peut-être ses habitudes. Il va revenir à lui et il va faire une prière, il va répéter une prière. Et je cherchais, vous savez, dans la parole, il y a des textes qui sont tellement marquants, tellement, tellement imagés. Et j'ai trouvé ce psaume et on pourrait vraiment, vraiment y voir la vie de ce jeune homme. C'est le psaume 31, à partir du verset 10, et il nous dit « Accorde-moi ton appui, Seigneur, je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent tant j'ai de chagrin. Ma vie décline sous l'effet des tourments. Les années passent, je m'épuise. » En soupir, les torts que j'ai m'ont fait perdre toute énergie. Mes dernières forces s'en vont. Le verset 13 nous dit, on ne me connaît plus, on m'a oublié comme un mort, comme un objet hors d'usage. Une autre version dira, je suis oublié des cœurs, comme un mort, je suis comme un vase brisé. Vous savez, ce jeune homme qui avait peut-être tellement d'idées, qui avait peut-être un chemin qui était là dans sa tête, tout tracé. Mais c'était là le drame, c'est que ce n'était pas le chemin de Dieu. Ta vie sans Christ, ce n'est pas une vie où tu vas pouvoir trouver, où tu vas pouvoir aboutir à quelque chose. C'est une vie où tôt ou tard, lorsque, à un moment donné, tu auras une prise de conscience au niveau spirituel, lorsque tu vas revenir à toi, tu vas faire ce constat, je suis oublié des cœurs, je suis comme un mort, je suis comme un vase brisé, je m'épuise en soupir parce que rien ne change, rien ne peut évoluer. Je pensais avoir tout et pourtant j'ai toujours ce vide. Je l'ai déjà raconté, mais vous savez, il y a quelques années en arrière, je travaillais dans une association qui traitait de la question du suicide. Et on recevait des dizaines et des dizaines de mails. Quelquefois, les gens téléphonaient. Et bien sûr, il y avait de tout dans les mails. Mais beaucoup de mails. C'était des personnes qui expliquaient « Je suis cadre dans une société, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un bateau privé, une villa privée. » Je n'invente pas ce que je vous dis, c'est véritable. Je peux partir chaque été en vacances, je ne manque de rien, mais j'ai quand même un vide, je pense à me donner la mort. Et c'était des dizaines et des dizaines de messages. Des dizaines et des dizaines de messages de jeunes qui écrivaient. Je me suis laissé prendre sur Internet, mon copain me fait chanter, je me sens tellement sale, je pense à la mort. Il y a un chemin dans lequel le diable ne va jamais nous dire qu'on se trompe. Il y a un chemin dans lequel le diable ne va jamais nous dire « mais ne t'inquiète pas, inquiète-toi plutôt, c'est pas la bonne route, fais demi-tour ». Le diable ne dira jamais cela. Mais Dieu, lui, nous le dit. Ne prenons pas une direction loin de Dieu. Ne pensons pas que nous pouvons avoir dit à Dieu « donne-moi l'arbre de la connaissance ». Et être spirituellement en bonne santé, épanoui. Je suis oublié des cœurs. Je suis comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Et laissez-moi vous dire que l'amour du Père qui était là, qui attendait ce Fils, c'est le même amour ce soir qui veut nous rappeler à lui, qui veut nous dire que si tu te crois oublié des cœurs, pour lui, tu n'as jamais été oublié. Si tu es comme un vase brisé pour lui, tu n'es pas en mille morceaux, tu n'es pas quelque chose de fini, d'inutilisable. Pour lui, tu as de la valeur. Et la valeur que nous avons, c'est la valeur du prix du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, sur le bois de la croix. Jésus a pu dire, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour soi, c'est pour toi, c'est pour cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu sauver ceux qui pensent qu'ils sont en bon état spirituel. Il n'est pas venu sauver ceux qui pensent que tout va bien. Il est venu sauver ceux qui ont conscience qu'ils sont perdus dans ce monde. Il est venu sauver ceux qui ont conscience qu'ils sont brisés et que Jésus-Christ seul peut restaurer si, comme nous l'a rappelé notre frère, si nous nous repentons, si nous acceptons de dire « c'est vrai Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi Dieu, j'ai péché, pardonne-moi ». Aide-moi, viens à mon secours. Vous savez, la prière de ce jeune homme, ça a duré 5 secondes, 10 secondes. Ça n'a pas été une prière qui a duré une demi-heure. 5 secondes. Et celui qui était tellement loin de Dieu s'est vu rétablir dans sa relation. La créature a retrouvé son créateur. Celui qui était esclave est devenu libre avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais passer. Il commença à se trouver dans le besoin, et comme je l'ai déjà dit, Dieu peut faire en sorte que tu te trouves dans le besoin pour crier à lui. Lorsque tu es dans le besoin, ne te rebelle pas. Considère que c'est Dieu qui met tout en œuvre pour te trouver, que tu sois jeune converti, que tu ne connaisses pas Dieu. Considère que c'est Dieu qui gouverne ta vie. Le psaume 88 nous dit, versets 5 et 6, « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. » C'était là la photographie du cœur de ce jeune homme lorsqu'il a décidé de revenir à Dieu. Et je le répète, et excusez-moi de le redire volontairement, si tu penses que tu es trop loin, tu te trompes. Si tu penses que tu as trop péché, que dans ta vie tu es allé trop loin, ce n'est pas vrai. Quand bien même tu es dans la fosse, quand bien même tu es tellement loin, quand bien même il te semblerait que tu es tendu comme ceux qui sont morts, Dieu t'attend. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu est tout puissant pour te secourir. Il se leva et alla vers son père. C'est là ce que Dieu nous demande quand même. Parce que si Dieu a voulu nous donner son fils Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, on pourrait dire afin que tous ceux qui sont tellement loin et qui croient en Jésus-Christ ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Quand même, Dieu nous a tout donné. Jésus-Christ a tout accompli en mourant sur le bois de la croix lorsqu'il a versé son sang. Mais Dieu attend qu'on puisse se lever et qu'on puisse aller vers notre Père. Il y a eu une restauration et je terminerai par cela. Le Père va lui remettre la plus belle robe. C'est là le symbole du Fils, de l'enfant qui a été purifié. Il a eu un nouveau vêtement. Il va lui mettre un anneau au doigt, c'est là le symbole de la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce et la porte de la grâce est encore ouverte ce soir. Et des souliers aux pieds, c'est là la marche que nous avons, nous qui sommes chrétiens, qui sommes nés de nouveau, c'est nous marchons en nouveauté de vie. C'est cela que le Père veut faire, que Dieu veut faire, au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On peut prier le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles ton amour. Au travers de ces chants, au travers de ta parole, nous voyons combien tu ne te lasseras jamais d'accueillir les pécheurs. Tu n'accueilles pas le péché, mais les pécheurs. Tu nous aimes. Seigneur, merci parce que nous qui étions tellement loin de toi, tellement perdus, tu as voulu nous retrouver là où nous étions, par une parole de grâce, une parole d'amour, par le message de la croix, le message de l'évangile. Tu nous as ressuscités comme ce fils prodigue qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est là notre image. Et pour cela, si dans les réjouissances pour ce fils prodigue, la Bible nous dit, ta parole nous dit qu'un veau gras a été tué, sacrifié. Nous savons que pour notre vie, de nous-mêmes, c'est Jésus-Christ qui a été tué, sacrifié pour nous. Nous voulons te remercier et te bénir. Mon Dieu, je te prie pour un ami, une bien-aimée qui peut-être est perdu ce soir, pour qu'il puisse trouver la bonne direction. Je te prie peut-être qu'il y a quelqu'un qui te connaît, qui s'est engagé, mais qui s'est laissé prendre par les pièges de ce monde et qui a commencé à prendre un chemin de travers, qu'il puisse revenir à toi, mon Dieu. Tu nous attends. Notre place, elle est auprès de toi. La place de la créature, elle est auprès de son Créateur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.